Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial avec toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Raffut, hein, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, on le dit chaque semaine, mais c'est de plus en plus vrai. Alors, au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph va nous servir son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous sommes chanceux, on va recevoir aujourd'hui l'ancien trois-quarts-centre international, Wesley Fofana, 48 sélections en bleu et surtout un essai d'anthologie. On va en parler évidemment avec lui, mais pas seulement. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver toujours sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Elle est déjà bien entamée. Mais si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Raffut, saison 6, épisode 26. C'est parti. Allez Raph, cette semaine, il est question dans ta ruade de l'immense, le gigantesque Sergio Parissé, le troisième ligne qui a écopé d'un carton rouge le week-end dernier contre le stade toulousain. Mais ce sont les images qui ont suivi, qui t'ont marqué et tu souhaitais en parler, Raph, c'est bien ça?
Ouais, Arnaud, il y a un paradoxe en fait entre ma ruade et mon coup de gueule, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Oui, les larmes de Sergio nous ont plongé, joueurs et joueuses, amateurs et professionnels, supporters de tous bords dans ce monde si spécial où on sent que la fin est proche et que chaque moment est abyssalement important, voire vital, aux côtés de nos frères d'armes. Oui, les larmes de Sergio nous ont permis de voir l'homme derrière la cape, la sensibilité derrière l'armure et surtout que vulnérabilité et homme moderne ne font enfin qu'un. Car oui, l'homme pleure et que c'est beau quand c'en est un dans notre cher sport où virilité et vulnérabilité ne font pas bon ménage. Ben oui, on n'est pas des... Et on se rend compte un peu plus encore que notre rugby avance, évolue et que même si on a aimé ce rugby viril où on s'est chauffé à grands coups de casque dans les vestiaires, sortant inexorablement commotionné sur le terrain avant même le coup d'envoi, même si on a aimé ses joutes et ses coups d'un autre temps et ressemblant plus à du MMA qu'à un match de haut niveau, même si on a aimé ces fameux affrontements de bonhommes qui chialent pas parce que on n'est pas des mauviettes, pour ne pas employer un terme devenu stigmatisant, même si ce rugby pas si lointain auquel on a participé nous plaisait parce que ça nous permettait de trouver notre place dans notre société d'audument patriarcale, eh bien, force est de constater que les hommes de nos jours évoluent, pleurent, ressentent et s'expriment différemment. Et ça inspire et ça fait du bien. Pour en revenir à Sergio, oui, c'est triste de savoir que ce monument du rugby va bientôt s'arrêter, mais je ne vais pas l'enterrer trop vite. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'au-delà de son talent inné, qu'au-delà de ses réceptions toujours nickel sous les ballons hauts en troisième rideau, qu'au-delà de son drop en équipe d'Italie, de ses mille et une sélections, au-delà de ses timbres, de ses titres, au-delà de sa fidélité, au maillot qu'il porte, au-delà de l'homme exemplaire par son engagement et ses valeurs, eh bien Sergio nous a encore ouvert le champ des possibles en nous offrant, comme une belle schistera dont il a le secret, ses larmes d'homme d'un dimanche soir qui nous rappelle à notre humanité.
Allez, c'est parti. Deuxième partie dans Poulain Raffut aujourd'hui. Nous sommes très chanceux avec Raph Poulain. Nous avons la chance de recevoir l'ancien trois-quarts-centre du 15 de France et de l'ASM Clermont-Auvergne. 48 sélections avec les Bleus et 2 titres de champion de France avec l'ASM. C'était en 2010 et 2017. Une carrière assez exceptionnelle qui s'est conclue en fin de saison dernière. Depuis, il se fait rare dans le monde du rugby. Mais Wesley a accepté ton invitation, Raph. Et je crois que ça te remplit de joie, n'est-ce pas?
Mais grave. Mais je ne vais pas me spoiler parce que j'ai fait ton portrait, Wesley. Donc, moi, la première question, comme l'a dit Arnaud, tu te fais rare dans les médias. Ce que je veux savoir déjà, c'est que tu connais mon passé, certes, de joueur. Au-delà de ça, de blessé, tu l'as été sur la fin de saison, sur ta fin de carrière. Moi, ma volonté, c'est de savoir déjà comment ça va, Wesley.
Forcément, l'arrêt du rugby, ça fait un bien fou au niveau du corps, ça, c'est sûr. Se réveiller les matins sans avoir de douleur ou ressentir des sensations désagréables comme tu as dit que tu dois connaître musculaires, ça c'est sûr que ça fait une grande différence.
Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui Wesley? Est-ce que tu as un manque en particulier en termes de, alors pas parler de vie sociale mais voilà, pas de sensation obligatoirement sur le terrain, ça n'a pas l'air de te manquer, mais qu'est-ce qui peut te manquer en fait de ta vie d'avant?
Moi, le seul truc qui me manque, c'est de sprinter. C'est là où tu commences à devenir un peu vieux. Même quand tu cours après tes gamins, tu te dis, oh putain, je peux plus atteindre les 30 km/h, c'est pas possible. Et ouais, ça me manque un petit peu de sentir un peu le vent, la vitesse, mais voilà, c'est le seul truc où je me dis, je pense peut-être que j'y arriverai plus jamais. Voilà.
Bon allez, avant de poursuivre vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Wesley. Mais attention, Fofana version Poulain Rafut, c'est pas pareil et c'est maintenant.
Wesley, qu'est-ce que tu m'as fait sauter sur mon canapé en te regardant jouer? T'as illuminé cette équipe de France dans ces années compliquées avec tes 48 sélections et tes 15 essais. C'était écrit que tu ferais carrière à l'ASM car tu débutes le rugby au SCUF, USO, Massif Central, mais de Paris. Grâce à Serge Collinet, d'ailleurs, qu'on embrasse, qui est un mec qui a révélé beaucoup de joueurs. D'ailleurs, passé par le PUC et la Canale, tu es un pur produit parisien et c'est à l'ASM le 16 janvier 2009 que tu te révèles champion de France en 2010 et en 2017. Tu es un petit peu le Tahar Rahim du rugby, sachant que tu as gagné deux titres en 2010, champion de France Espoir et champion de France de Top 14. Rappelons que Tahar Rahim avait gagné la même année, en 2010, le César du meilleur espoir et du meilleur acteur. Ben ouais, le talent, certes, mais beaucoup de travail pour rester à très haut niveau. Tu as connu pas mal de pépins, mais ça ne t'a pas empêché d'avoir marqué toute une génération et de devenir aux côtés d'Aurélien Rougerie, un centre historique du Massif Central. C'est cadeau, le jeu de mots, messieurs. 13 saisons avec le club jaune et bleu. Je n'ai pas ce point commun sur la durée de nos carrières, mais plutôt le côté que je te. Et je te cite d'ailleurs, moi, le rugby m'est tombé dessus par hasard et c'était les copains à 18 ans. J'arrive à Clermont, je me suis retrouvé seul dans cet appartement. Il n'y avait plus les copains et je me suis demandé ce que je foutais là. Ma réaction a été celle-là, la rébellion. Un côté petit con, les copains que je m'étais fait étaient en espoir. On connaît la suite, alors pour ma part, je perce aussi à 19 ans, mais bon, j'avais été la chance d'être champion de France Réchelle avec une bonne équipe d'abrutis, notamment équipe francilienne. On connaît la suite, mais moi, ça a duré 7 ans et toi, presque le double. Et je ne sens pas de regret d'ailleurs dans ton arrêt, mis à part cette Coupe d'Europe. Peut-être aussi un autre point commun qu'on a tous les deux. On a eu deux, enfin, moi en tout cas, c'était deux finales que j'ai loupées et qu'on n'a pas gagné avec le Stade Français. Alors, j'arrête en concluant ce petit portrait en disant que tu manques au rugby, Wesley. Mais que heureusement que tu as arrêté parce que si tu étais encore sur le terrain, je crois qu'avec mon âge et les kilos pardon, pris ces dernières années, je me serais sûrement claqué tous les week-ends en me levant de mon canapé à chacune de tes percées. Une dernière chose, je ne sais pas si tu en es bien conscient, mais bordel, tu es quand même le dernier à avoir joué avec un cuissard apparent. Merci pour ça, Wesley, très honnêtement.
Ouais,
Wesley, on le disait, tu as été très discret ces derniers temps, mais tu es revenu malgré toi dans l'actualité. La nuit du 12, alors je parlais de cinéma, Tahar Rahim, c'est un ami depuis 15 ans maintenant. Et toi, justement, tu as percé en une phrase. Voilà, La nuit du 12, c'est un film qui est nommé à 10 reprises pour la prochaine cérémonie pardon, des Césars. Et le réalisateur te rend hommage, Dominique, qui l'a dit dans la presse. Un personnage s'appelle Wesley Fontana. Ce n'est pas un hasard, c'est un petit hommage à l'ancien rugbyman de Clermont. Mais comme c'est un des suspects, je ne voulais pas l'appeler exactement comme Wesley Fofana. Est-ce que tu étais au courant de cette histoire? Alors oui, je pense, mais qu'est-ce que ça fait justement d'être à la fois une star dans le rugby, une star dans le cinéma malgré toi?
Alors, une star dans le cinéma, je sais pas. Après, forcément, ça, c'est super, super rigolo de pouvoir avoir ce petit clin d'œil. Bon, comme je te l'ai dit, il m'a mis quand même suspect dans le film, donc je sais pas comment je dois le prendre. Mais voilà, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir.
Wesley, juste un mot quand même, quelque part, quand il y a un réalisateur comme ça qui se retrouve nominé au César à 10 reprises, qui te rend hommage, tu as le sentiment quand même quelque part d'avoir marqué un peu l'histoire du rugby français, même si, on va pas se mentir, tu n'as pas connu la plus belle période du rugby français avec l'équipe de France, ça a été parfois un peu difficile, on va revenir dessus.
Ben, moi, comme j'ai dit, de toute façon, on a connu cette période-là. Moi, j'ai adoré être présent et vivre ça avec ces mecs-là. Ça devait être mon histoire, donc ça, j'aurais jamais de regret par rapport à ça. Et qu'est-ce que ça fait? Non, je me rends pas. Enfin, je m'en rends compte parce qu'on reçoit beaucoup de messages forcément de gens qui te remercient pour tout ce que tu as fait, etc., etc. Mais moi, comme j'ai toujours répété, c'est pas quelque chose à laquelle je courais. Et donc, je m'en rends pas trop compte. Comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, peut-être dans 5, 10, 15 ans, vraiment quand je pourrais vraiment plus sprinter, je me rendrai compte des choses. Mais là, actuellement, je suis plus dans l'après et je réfléchis pas trop à tout ça, quoi.
On ne s'attend pas à vivre une vie pareille, Wesley. Moi, je l'ai vécu, comme je le disais, en termes de timing, peut-être à 7 ans de moins que toi, mais pour l'avoir vécu à Paris, tu vois, débarquant on ne s'attend pas à vivre cette notoriété. En plus, tu l'as vécu à l'ASM. Je pense que c'est quand même un village gaulois, on le rappelle. On ne s'attend pas à vivre ces moments-là, surtout quand on est détaché, qu'on est amoureux, hein, je dirais, du rugby, mais pas obligatoirement passionné. Est-ce que c'est un peu le cas pour toi? Est-ce que c'était ça
Moi, c'est clairement amoureux et passionné du sport. Et j'ai arrêté de le dire sur ma fin de carrière parce que je sentais que ça dérangeait un peu de ne pas être un passionné justement du rugby. Mais moi, je n'ai jamais été un passionné du rugby. À 6 ans, je ne rêvais pas de faire carrière dans le rugby. Par contre, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le sport. Donc, pouvoir me lever tous les matins et courir avec les potes sur le terrain, c'était juste extraordinaire. Donc, ça, je remercie la vie de m'avoir offert ça, c'est sûr.
Mais oui, mais on va bouleverser sports, petit peu l'ordre des questions, mais justement, je voudrais rebondir là-dessus, Wesley. Tu dis que tu n'avais pas de rugby, forcément. Quand tu te retournes un peu sur ton histoire, qu'est-ce que tu te dis finalement que Serge Collinet, ton prof, hein, on le rappelle, célèbre professeur au collège Georges Braque, comme l'a dit Raph, qu'on salue ici, qui a formé tout un tas de joueurs, est-ce qu'il a bien fait finalement d'insister pour que tu joues au rugby et surtout pour convaincre ta maman pour qui il était hors de question que tu touches un ballon au bal.
Ah, ça, c'était le plus dur, ça, de réussir à la convaincre. Mais il est très, très patient et il ne lâche pas l'affaire. Mais après, oui, forcément, après, Serge, il le sait, je le répétais, mais c'est à vie, ce monsieur, lui et moi. Voilà, on s'écrit encore, on se donne des nouvelles. Et c'est important qu'il y ait ce lien, encore une fois. Et après, il a été déterminant, j'ai envie de dire, dans cette vie-là, dans la vie que j'ai eue dans le rugby. Mais qui sait si j'avais continué le basket, continué le football, continué autre chose, je ne sais pas. En tout cas, dans cette vie-là, c'est sûr que lui, il est primordial et merci à lui, quoi.
C'est vrai que pour avoir lu justement ton dernier article dans le Middle, en fait, tu étais doué un petit peu pour tout, quoi, et que le rugby t'a attrapé comme on chope la grippe, je sais pas, du jour au lendemain, quoi. C'est un truc qui
Les copains, quoi, voilà. Copains du lycée, enfin du collège, j'ai eu suivi et donc je suis tombé là-dedans, ouais.
Qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, j'imagine?
Alors, j'ai forcément des contacts encore avec ceux avec qui j'ai commencé, mais comme je le disais, tu vois, tu t'en perds petit à petit, toi tu commences à grimper tout seul. Et c'est là où tu commences à te poser des questions. Forcément, tu te refais de nouveaux proches, de nouveaux potes. Et c'est ça qui te fait t'accrocher. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ça qui me fait m'accrocher. Mais ce qui a été très dur pour moi au début, c'est de perdre petit à petit des super amis dans le rugby. Et toi, continue tout seul, quoi.
Ouais, c'est comme un peu un deuil à faire de rentrer dans une vie active et une vie d'adulte très, très rapidement, à un âge en fait où tu es normalement en formation, on va dire 17, 18, 19, 20 ans, tu es quand même un âge où tu es juste avec tes potes, et là, du jour au lendemain, tu rentres dans un truc pro, en plus, tu pars de Paris, tu arrives à l'ASM, tu perds en 2009. Est-ce que tu as des souvenirs justement de tes débuts je parlais, c'était en janvier 2009 notamment, ton premier match. Est-ce que tu as des souvenirs justement de tes débuts?
Ouais, bien sûr. Ça a été compliqué hein, parce que comme tu l'as dit, j'arrive dans un monde professionnel et à Clermont. Ça veut dire que je n'ai pas choisi le club le moins professionnel du truc. Tu vois. Donc, je suis arrivé et moi, j'étais peut-être le joueur le moins professionnel de tout le top 14. Donc forcément, il y avait un décalage incroyable. Et ça, ils m'ont bien fait comprendre et ça a été dur pour eux. Allez, j'ai envie de dire les 3 premières années, ouais.
Ah ouais, t'as pris des coups de bâton un peu, Wesley?
Moi, c'était pas dur parce que sincèrement, et ça va peut-être choquer parce que ça me choque même de le dire, mais j'en avais strictement rien à faire en fait. J'arrivais pas à calculer ma vie par rapport à ça, donc forcément, il y avait un décalage parce qu'eux, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais comment c'est possible de se comporter comme ça? Et ils se rendent pas compte, et effectivement, je m'en rendais pas du tout compte. Donc moi, j'ai très bien vécu, après eux, un peu moins bien, je pense.
Mais tu vois, le fait de ce que tu dis, mais je le comprends tellement de dire, mais je comprends pourquoi eux ne comprenaient pas. Ouais. Et en gros, c'est laissez-moi tranquille, en fait. Je vis ma vie, je vis ma jeunesse, laissez-moi avec mes potes, avec mes carbonara, avec mes brinques si t'en faisais. Bon, après, le train peut passer très vite, tu vois, la différence.
Exactement.
Le mien est passé très, très vite, ouais. Même si j'ai fait 7 ans de carrière.
Ouais, moi, j'ai eu de la chance, hein, c'est sûr.
De la chance, mais aussi d'un moment peut-être, est-ce que tu as eu ce déclic à un moment de t'éveiller? Est-ce que tu as eu des mecs? Je sais pas, alors Kaïs, il est à peu près peut-être un peu plus âgé que toi, mais des mecs qui à un moment t'ont dit tu pars en couille. Moi c'était Pierrot, Rabadan, moi c'était Domi, tu vois, ces mecs qui m'ont parlé à un moment, il était trop tard, mais je me souviens de ces petits messages en fait subliminaux.
Il y en a plusieurs, il y a forcément Vern qui je sentais bien malgré son agressivité, sa sévérité envers moi, qui m'aimait bien. Il y a Joe Smith qui venait me voir discrètement à tous les matchs espoirs. Et qui me parlait dès que je faisais des bonnes choses, etc. Donc ça commençait déjà, je commençais à me dire c'est bizarre. Et, Et ensuite, bah, après la venue de Franck, forcément, où il m'a clairement dit que ça fait longtemps, il voulait me faire venir à Perpignan, qu'il compte sur moi au centre, notamment la Coupe du Monde qui arrivait, etc. Donc ça a été vraiment le déclic. Forcément, il y a eu le déclic, mais comme je te dis, il aurait pu ne jamais venir parce qu'ils auraient pu largement se séparer de moi avant avec un tiers de ce que j'ai fait.
Alors, vu ton caractère, ton pédigré, et vu ce que tu représentes et vu ce que tu étais à ce moment-là, est-ce que il fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui te voie pour ce que tu étais? Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux te voir? C'est la manière dont tu peux communiquer, dont il fallait communiquer avec toi. Tu vois, Sylvain de Côté a été peut-être un peu trop directif. Moi, je me souviens que j'ai eu des entraîneurs qui étaient trop directifs. Et puis, j'en ai eu un, c'était John Connolly en 2001, tu vois, qui arrive au Stade français, qui me prend sous son aile et qui me fait à l'affect. Et j'ai été l'un des meilleurs à mon poste pendant quelques semaines, on va dire.
N'importe quoi.
Mais tu vois, mais
Non, oui,
non,
je
non,
vois ce que tu veux dire, ouais.
il y a des mecs qui te disent, ouais, qui te prennent le côté paternaliste qu'on aime aussi dans le rugby quand t'as 20 piges. Est-ce que c'était pas Franck Azéma, justement, plus que Vern Cotter?
Bah, sincèrement, moi j'ai eu la chance. Moi, je suis un peu comme toi. J'étais vachement sur l'affectif et j'avais besoin de ça aussi pour donner. Et là où j'ai eu la chance, c'est que je suis tombé dans mon parcours sur que des relations comme ça avec les entraîneurs. Donc, que ce soit avec Serge, avec Mathieu Rouault en suivant. Ensuite, on a eu ouais, forcément Fabrice Ribeyrolle en espoir, Vern Cutter. Joe Smith un peu moins parce qu'il est resté très peu de temps, mais comme je t'ai dit, il me suivait de très près. Et après, forcément, Franck, pendant toutes ces années, on avait des relations, notamment avec Franck, ouais, ultra ultra proches. Maintenant, on peut le dire, il y a prescription, mais donc ouais, on était très proches et on disait beaucoup de choses. Et forcément, moi, j'avais besoin de ça, c'est sûr.
Wesley, ça va peut-être un peu te saouler, mais on ne peut pas ne pas en parler. Un petit flashback, 23 février 2013, on est à Twickenham, 82 000 personnes, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu marques un essai juste improbable, incroyable, pas superbe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête sur cette action?
Mais strictement rien. Et surtout, après, pour moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est. Forcément, je suis pas con. Aujourd'hui, j'arrive à voir que c'était un essai super. Mais en sortant du match, moi, je ne suis pas du tout porté là-dessus. Et je vois qu'il y a tout le monde qui me parle de ça, même Philippe, etc., qui viennent me parler de cet essai. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et forcément, après, avec le recul, tu t'en rends compte. Mais je pense que j'ai déjà dû le dire. Je peux pas cracher sur cet essai parce qu'il m'a apporté énormément de choses dans ma carrière. Mais je sais pas si je referais une carrière avec un essai comme ça.
Ah ouais? Ah
Ouais,
oui.
ouais. Parce que
D'accord.
je pense que ça a été un peu à ce moment-là que. Comment
Tu
retranscrire
as
ça?
suscité beaucoup d'attentes après.
Exactement. Et donc,
Ouais. Et peut-être trop.
forcément, tu es toujours dans. Même quand pour moi, j'ai fait beaucoup d'autres matchs bien meilleurs que celui-ci. Et c'était jamais assez, jamais assez. Et donc après, tu commences à rentrer dans une spirale où tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça soit assez, etc., etc. Et donc, je sais pas, ça a été compliqué de gérer ça par rapport aux gens, parce que forcément, moi, j'adore le sport aussi pour tout ce que ça peut donner. Et forcément, quand tu as l'impression de ne pas donner assez, bah, t'es pas si heureux que ça et si ça t'explique ça. Donc c'est vrai que j'ai passé, je pense on a eu des discussions comme ça beaucoup avec Franck, j'ai passé beaucoup de temps dans ma carrière à pas profiter et à vouloir savoir comment être encore mieux, quoi. Donc c'est
Et est-ce que tu l'as compris ou tu l'as compris après coup, notamment par rapport aux blessures, par rapport à justement cette volonté du toujours plus, c'est ce qu'on appelle dans l'adolescence, c'est cette espèce de toute-puissance, de course à la perfection en fait, mais qui d'ailleurs n'existe pas, mais dans le sport, on court après ça. Est-ce que tu as pu le comprendre après ce rapport au corps? Ce qui m'a marqué dans l'interview justement du Middle, qui est top, hein, c'est la manière dont tu dissocies ton corps de toi, en disant, ouais, mon corps me parlait, mon corps me faisait mal, tu vois, mais est-ce qu'on est conscient en fait de ce qu'on lui fait endurer tout au long de ces années?
Bien sûr,
Ah,
bien sûr.
Et c'est
Bah,
pas de passer pour un extraterrestre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ils de plus en plus prennent la parole entre le corps et l'esprit, justement, les sources de motivation, le coaching mental et tout ça.
ah, mais
Est-ce
c'est
que ça t'a pas
complètement lié,
manqué
hein.
pendant ta... Est-ce que ça t'a pas manqué pendant ta carrière, justement, cet aspect mental? Parle pas de mental de guerrier, de mental à toute épreuve, tu vois ce que je veux dire, mais de réfléchir autrement que performance, stratégie et technique.
Bah déjà, encore une fois.
Petite question dans ma question, hein, tu m'excuses. Hein,
mais ouais, bah, je vais essayer de faire un petit mix, mais en gros.
Fais le tri.
En gros, encore une fois, je regrette aucune chose dans ma carrière sur ce qui a pu arriver au niveau des matchs, etc., notre gestion. Mais c'est vrai que notamment au tout début, c'était non-stop, quoi. On jouait non-stop, et beaucoup de matchs. Et au bout d'un moment, forcément, t'as beau être très en forme, je pense que c'est Philippe dans son livre qui l'expliquait bien. Bah, sauf qu'on était mort. On arrivait aux tournées d'été, on était sur une jambe, et ensuite tu repartais sur un truc. On n'était jamais protégé à cette époque-là. Et donc, franchement, moi, je suis le premier content pour les mecs qui sont un peu protégés, là, qui sont au niveau du 15 de France, parce que tu en as besoin. Sinon, et au bout d'un moment, ils auront aussi le retour du bâton et ça va faire mal aussi. Mais
t'aurais aimé, Wesley, justement, t'aurais aimé, à ton époque, pouvoir bénéficier d'un tel confort de travail?
Ah, ça aurait été top. Mais il faut forcément passer par une génération ou par des expériences pour pouvoir évoluer. Donc, ça a été nous et puis c'est comme ça. Mais en tout cas, nous, je pense qu'on l'a dit, peut-être pas assez fort, peut-être pas avec les bons moyens et peut-être pas tous ensemble. Mais c'est sûr que ça, on en avait besoin et on le ressentait tous.
Mais ce que tu dis là, Wesley, c'est Antoine Dupont qui l'a dit il n'y a pas très longtemps sur la cadence des matchs. C'est le même problème depuis que le rugby pro existe, c'est-à-dire quand tu cumules, en plus vous étiez ici en Coupe d'Europe avec l'ASM, en équipe de France, quand tu cumules 30 ou 35 matchs, on ne parle pas du rugby que moi j'ai connu, qui n'était pas le rugby cassoulet, mais presque, on parle d'un rugby voilà, où les gabarits ont évolué, où les impacts sont plus importants, où les matchs sont plus intenses, où ça va beaucoup plus vite avec les terrains qui sont justement synthétiques, donc ça va à 2-3 km plus vite, mais bon, 2-3 km en plus. Et t'as connu ça.
Ah oui, ça fait la différence.
Mais ce que vit Antoine Dupont aujourd'hui, quand on voit, on en a parlé, comment il s'appelle le troisième ligne,
Aldrit.
Il est grillé. Donc on en parle à demi-mot, mais est-ce que les leçons ont vraiment été tirées du passé? On en tire.
Il faudrait encore plus, mais il faut se dire qu'à l'époque, c'était encore moins. Donc, je comprends Antoine, mais il faut qu'il se dise, pour l'instant, il a de la chance. mais en gros, oui, c'est ça. C'est que je pense avoir fait 3-4 saisons comme ça. Et déjà, à la base, j'avais une des fragilités musculaires au niveau des ischios depuis que je suis jeune. Serge pourra en témoigner. Et donc, forcément, je prends de l'âge, la fatigue, ce que tu lui fais subir aussi à ton corps. Et les blessures musculaires arrivent de plus en plus souvent. Plus de temps en temps, paf, une grosse blessure. C'est comme ça. Et devoir sans arrêt s'expliquer, sans arrêt devoir quelque chose, tu avais cette sensation-là à la fin, de voir quelque chose. Au bout d'un moment, tu dis stop, quoi. Et puis voilà. Et puis j'aime mon corps, quoi, donc j'ai envie de le respecter un minimum, quoi.
D'ailleurs, puis t'as des enfants, tu m'as dit, moi je me suis pété deux épaules, bon après j'ai fait un bras de fer, c'est encore une autre histoire, mais bon, je me suis arrêté.
Ça me rappelle ça.
calme-toi, ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, n'est-ce pas? Mais moi je me suis arrêté au bon moment, je peux porter mes gamins, j'ai deux fistons et je suis content de ne pas avoir mal aux épaules. Bon, je fais 110 bars, donc là tu vois, j'entretiens quand même un peu le bordel. Non, je voudrais revenir juste sur aussi tes mots par rapport à ce que t'as vécu en équipe de France. Pour moi, pour ça, c'est positif, et c'est ce que disait Guillaume Guirado, qui est votre génération a bouffé la tartine de merde pour la génération d'après. Mais tu as toujours été positif par rapport à ce que tu as dit. On sort justement de ce match contre l'Angleterre, que vous perdez d'ailleurs 23 à 13. Vous aviez perdu contre l'Italie, contre le Pays de Galles. Vous avez vécu une période difficile avec le 15 de France. Tu as toujours eu des discours positifs. Mais comment tu expliques cette période compliquée? Est-ce que c'était, alors moi, c'est mon analyse que je fais en tant que supporter et ancien, mais surtout supporter, est-ce que c'est les conflits larvés entre la Ligue et la Fédé, avec l'importance de prendre l'homme en forme, l'homme du moment, comme on le faisait? On a eu 10 charnières en 15 matchs. Est-ce que c'est beaucoup d'éléments? Parce qu'on a toujours mis ça sur la gueule des joueurs, hein, que c'était de la faute des joueurs. Mais bon, quand on prend un petit peu de recul maintenant, on se rend compte en fait qu'il y avait peut-être d'autres
bien sûr, c'est un tout. Il y a énormément de choses. Après, la vérité, je pense qu'on avait des joueurs super aussi, mais que si tu prends la génération d'aujourd'hui, non seulement ils sont dans la même génération, à peu de choses près, ils ont déjà gagné ensemble, et peut-être au niveau du talent, il y a déjà un peu plus. Mais c'est un tout. Après, il y a beaucoup de matchs aussi, je ne me rappelle pas de tous, mais il y a beaucoup de matchs qu'on perd de très peu. Donc, il y a des choses qui basculent aussi dans le mauvais sens. Les Blacks, deux fois, on a failli les battre. Tu te dis, ça joue à pas grand-chose quand même. Mais bon, on a beaucoup de défaites, donc on va retenir ça. Mais je pense que avec les moyens qu'on avait, les joueurs qu'on avait, etc., je regretterais. Hein. C'était cool quand même. Ouais.
Et justement, Wesley, par rapport à cette période, parce que ce dont tu parles là aujourd'hui, tu étais connu pour avoir un franc-parler, tu disais les choses assez facilement comme tu les pensais. Comme on dit dans le milieu, pour les journalistes, tu étais un bon client parce qu'il y a très peu de langue de bois. Tu te livrais assez facilement, en tout cas quand tu étais en confiance. Mais ça t'a joué des tours. En tout cas, c'est la rumeur a dit à l'époque où Guinovès avait été évincé du 15 de France. On a dit qu'on t'avait fait payer après, justement, ce soutien que tu avais apporté à Guinovès parce que tu avais dit ne pas avoir compris clairement dans les médias, ne pas avoir, en tout cas, avoir été surpris par le licenciement de Guinovès. Et c'est vrai que petit à petit, dans les semaines qui avaient suivi, ta place en équipe de France était un peu moins bien, comment on va dire, conservée.
Après, oui, ça m'a joué des tours, même au tout début. Tu vois, si je reprends le parcours, je pense qu'au début, on avait besoin de mettre une étiquette sur ma tête parce qu'on ne me connaissait pas. Donc, ça a commencé par celui qui ne fait pas de passe. Après, on m'a demandé quel poste je préférais jouer.
Ah oui, c'est vrai ça.
J'ai répondu naïvement au centre. Donc après, j'ai été celui qui fait des caprices pour jouer au centre. Ensuite, c'est forcément celui qui se blesse beaucoup. Non, celui d'abord qui avance plus, celui qui se blesse beaucoup. Et à la dernière Coupe du Monde, ça a été, j'ai pas envie de faire la Coupe du Monde, j'ai pas envie de m'entraîner, donc je rentre. Voilà. Donc ça va jouer pas mal de tours. Et en tout cas, les hommes avec qui j'ai eu des fortes relations. Et que j'apprécie énormément encore aujourd'hui, je cracherai pas dessus et je les soutiendrai toujours. Donc ça a été le cas pour Guy. Guy, malgré tous les travers qu'on a pu entendre et voir, moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et j'ai pris un pied pas possible à jouer pour Guy et Jeff. Donc je le dis.
Ah, Jeff du Wood,
C'est tout à ton
respect.
honneur parce que beaucoup ne l'ont pas fait, c'est ça que je voulais souligner aussi, quoi.
Bah, c'est quand tu regardes un petit peu en arrière, qu'est-ce que tu te dis sur le voilà le ton parcours, les titres, les finales aussi loupées, on rappelle hein, trois finales de Champions Cup contre deux pour moi, donc tu gagnes sur ce coup-là. Mais ce serait ton plus grand regret. Alors moi je vais te poser deux questions, ton plus grand regret, ton plus grand souvenir 2010 ou 2017? Est-ce que je me suis planté sur, en disant que tu étais bien champion de France Espoir et champion de France avec l'équipe première? On est d'accord en 2010.
Bon, mais après moi, pour moi, je suis en Grande France Espoir en 2010. Parce
D'accord.
que j'ai fait 15 matchs avec les pros en 2010,
Oui.
mais je fais la finale avec les Espoirs. Et pour moi, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, si tu ne fais pas la finale, c'est compliqué de se sentir champion de France.
Ah putain, j'ai trois boucliers chez moi, t'es sympa toi. Je n'ai pas joué une finale. Bon merde, bon les gars, je vous laisse, je vais aller chialer. Merci Wesley, non, je t'aimais bien, ouais, tu m'aimes bien.
J'ai précisé pour moi, c'est pour mes sensations.
Oui, je sais bien, j'entends, ouais, carrément. Mais donc, tu vois, tu as bien deux titres de champion. Ben alors, moi, mon meilleur souvenir, et je l'ai joué celle-là, c'était la finale Reichel, titre gagné avec mon Moulin, Rabadan, et tout. J'en parle à chaque fois tellement c'était chambé. Et que... Bon, je n'ai pas joué les finales derrière, mais mon meilleur souvenir, c'était celui-ci. Je pourrais mettre les Parcs des Princes aussi en 2005, mais ça reste avant que l'enjeu dépasse le jeu. Est-ce que c'est peut-être le cas pour toi aussi? Avant, quand je dis avant que l'enjeu dépasse le jeu, c'est qu'après cette finale des Reichel, je deviens professionnel à 19 ans. Est-ce que toi, ce serait le meilleur souvenir ou 2010 ou 2017?
Moi, ce n'est pas du tout les boucliers, mes meilleurs souvenirs. Parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas eu la chance de faire ces finales. Après, mon moins bon souvenir, forcément, c'est de ne pas avoir amené la première Coupe d'Europe au club. Ça, je l'ai dit à tout le public parce que c'est quelque chose qui était fort. Vancouver avait réussi à nous donner cette chose. Au fond, d'amener la Coupe d'Europe et d'être le meilleur club en Europe. Et on avait cette volonté absolue de le faire et c'est pas passé loin à plusieurs reprises, mais ça aussi, ça
Notamment contre
c'est
Toulon.
notamment comme Toulon, enfin, on doit jamais la perdre, celle-là, je vais me faire des ennemis, mais la première, on la perd toute seule, ça c'est sûr. Et c'est un regret parce que tu te dis. Avec l'expérience, hein, en ayant du recul, en ayant vécu beaucoup de matchs, en ayant vu beaucoup de choses, peut-être que si tu gagnes celle-là, après tu rentres dans une autre ère, tu vois, au niveau du club, et peut-être que l'épopée Toulon, peut-être qu'on la vit, tu vois, ça se passe un peu comme ça, les clubs, donc c'est un peu rageant à ce niveau-là, et de ne pas l'avoir offert, pardon, au club, ça restera, ça sera dur toujours, je pense, dans ma vie. Surtout que j'espère que le club il sera le plus longtemps possible, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait quand même une équipe incroyable et c'est dommage. Après, meilleur souvenir, franchement, c'est compliqué pour moi. Hein. Même les finales restent des bons souvenirs. Des matchs incroyables à Geoffroy Guichard, etc. C'est des trucs fous que j'ai vécu. Les matchs en équipe de France. Donc, je préfère dire la globalité de ma carrière, quoi. Ça restera un super souvenir, quoi.
Messieurs, avant de bientôt conclure, parce qu'on a déjà retenu Wesley bien plus longtemps que prévu, un petit mot, on est obligé d'en parler. L'équipe de France qui affronte le week-end prochain l'Écosse, donc qui a été battue en Irlande. Comment tu la juges, cette équipe de France? Comment tu la perçois? Et puis évidemment, un petit mot dans la perspective de ce mondial qui se profile à l'automne prochain.
Moi, j'ai toujours, étant un amateur de poker, hein, j'ai toujours cru aux statistiques. Et donc, mine de rien, c'est pas mal de faire le dos rond et de perdre un peu avant les grosses échéances, parce que dans tous les cas, au moment donné, tu vas perdre. Il ne faudrait pas que ça soit au mauvais moment. Et après, forcément, tu restes. Aujourd'hui, tu es la plus grande, voire elle est dans les deux, trois plus grandes nations du monde. Donc forcément, n'importe quelle équipe qui va jouer contre toi va vouloir te saigner, ça c'est sûr. Et donc tu es une cible, et quand tu es une cible, c'est compliqué. Donc on voit que c'est peut-être un peu plus poussif qu'au début. C'est moins flamboyant que certains matchs, mais ça arrive quand même à s'accrocher. Après, c'est pas plus mal de perdre tout de suite.
Wesley, juste dernière question avant de te libérer pour tes enfants qui sont très importants. Quel est justement ton présent? On sait que tu es papa. Quel est ton présent au sortir de ta carrière, professionnellement et humainement, t'en es où? Comment ça se passe
Je
pour
suis un peu
toi?
la tête dans le jus parce qu'il faut que je révise, parce que j'essaie de basculer en école de kiné. Donc forcément, ça me fait avoir des concours en peu de temps et c'est beaucoup de révision, ouais, en ce moment.
L'avantage, c'est que tu connais ton corps.
Ça, c'est sûr. Mais
Hein?
eux, ils veulent quand même l'administratif.
Pour tout ce qui est humérus, épaule, n'hésite
Ouais,
pas, je peux
t'inquiète.
témoigner si tu
Ok,
veux. Hein?
ça marche. Mais voilà, je suis vachement dedans. Ouais.
Ok, top. Wesley, bon courage pour les révisions. Un grand merci pour ta disponibilité. Et ce podcast, évidemment, sera retrouvé avec Wesley Fofana sur toutes les bonnes plateformes, on l'a dit, et sur eurosport.fr. Wesley, merci. Raph, nous, on continue, on va enchaîner avec la troisième partie.
Merci à
Super, merci
vous.
à toi, Wesley. Merci
Ciao,
beaucoup.
ciao.
Allez, troisième partie dans Poulain Raffut, Raph, évidemment, on va revenir hein, sur cet échange qu'on a eu avec Wesley Fofana, un échange très riche, parfois surprenant, un peu comme l'était le joueur, imprévisible, notamment lorsqu'il évoque cet essai incroyable de 2013 à Twickenham où il traverse le terrain. Et finalement, il le regrette presque, cet essai, Wesley Fofana, parce que il explique hein, clairement que derrière, on a attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de sa part et que ça lui a mis énormément de pression et que ça a été difficile à vivre pour lui. Comme quoi, hein, il n'y a pas que le physique finalement qui compte dans le rugby, Raph.
Ben non, il y a la sensibilité. Et moi, j'ai trouvé cette interview, il est lunaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on le remarque, Arnaud, toi comme moi, toi qui es journaliste depuis 20 ans dans le métier, moi qui suis consultant et connais le rugby aussi tout autant que toi, on a je dirais des discours qui sont devenus un petit peu polissés. Et cette ancienne génération, qui n'est pas si vieille, hein, il a arrêté il y a 2 ans, Wesley, on se rend compte en fait que ben ouais, elle a des choses à dire et que c'est puissant de voir l'impact que les médias peuvent avoir sur un homme, sur un joueur. Notamment sur cet essai, tu vois, t'en parlais. Et puis derrière, de voir que c'est un amoureux des hommes, un amoureux du sport, mais pas obligatoirement du rugby en particulier. Et puis toujours la peur un petit peu de choquer avec ces termes, tu vois. Il disait toujours, ouais, mais voilà, on a beaucoup voulu de dire ça, mais il n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et c'est ça qui est génial. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et que même si tout n'a pas été rose, ce qu'il retient, c'est toute sa carrière, c'est tous ces moments assez magnifiques. Et je trouve qu'il est assez philosophe. Donc j'ai aimé le découvrir encore différemment que cette super interview qu'il y avait dans le Middle. Il y a un an ou deux maintenant. Voilà, le mec va bien, le mec regrette pas, le mec n'est pas rancunier, et puis il a ce franc-parler qu'on aime. Oui, les rugbyman, je l'ai déjà dit, Arnaud, tu le sais, hein, on n'est pas que des corps, il y a des émotions, il y a un mental, il y a une forme de spiritualité derrière, il y a la connaissance de soi à 20 ans, est-ce qu'on se connaît véritablement? Il y a les rencontres que l'on fait, justement, il parlait de Koliné, il parlait de Vert-Cotter, il parlait d'Azema, c'est tous ces gens aussi, ces hommes aussi qui te construisent. Et voilà, aujourd'hui, je l'ai trouvé, tu vois, souriant et heureux, et c'est toujours ce que j'ai aimé, c'est ce mec-là. J'étais content de l'avoir et je pense que c'était un bon moment, hein, Arnaud?
Ah, c'était franchement, il a été égal à lui-même, Wesley Fofana, dans cette interview. Imprévisible, parce que ses réponses ont parfois surpris. Et j'ai envie de dire, avec une sincérité et un franc-parler qu'on appréciait dans l'exercice médiatique lorsqu'on avait affaire à ce joueur qui avait toujours des choses à dire et qui était très spontané, qui était, contrairement à beaucoup de joueurs aujourd'hui, sans aucune arrière-pensée, qui n'était pas dans le calcul. Et qui disait vraiment ce qu'il avait sur le cœur. Donc, un grand merci à lui. Raph, on va enchaîner avec un petit coup de gueule pour commencer, en tout cas, cette petite rubrique. À l'heure où les diffuseurs sont les vrais décideurs du sport et du rugby en particulier, où le voyeurisme va toujours plus loin, tu veux dire stop, toi. Stop aux caméras dans les vestiaires. Pourquoi, Raph ?
Pourquoi je me suis fendu d'un petit texte que j'ai écrit là, cette nuit en direct d'Espagne, là où je suis en vacances avec ma femme et mes gosses, et j'ai été marqué, j'ai regardé le match. D'ailleurs, ma femme a regardé juste 2 minutes avec moi et elle a vu Sergio pleurer dans les vestiaires et elle s'est dit « mais qu'est-ce que fout la caméra ici ?» Donc, je me suis fendu de ce petit texte, mesdames et messieurs. Je trouve complètement impudique d'avoir une caméra dans les vestiaires. Au-delà des corps et cette pudeur qui appartient au sacro-saint groupe de rugby, c'est un lieu qui n'appartient ni aux supporters, ni aux caméras, ni aux réseaux sociaux. On ne montre pas ce genre de moment et surtout, on ne casse pas l'intimité de ce lieu fraternel. Sincèrement, j'avais l'impression d'être dans Love Story il y a 20 piges avec ces caméras figées qui épient les moindres faits et gestes. J'ai même cru l'espace d'un instant que j'allais entendre le commentateur changer de ton et me sortir un truc du genre « ici la voix ». Chers téléspectateurs, je vous invite à regarder chialer Sergio Parissé. Tapez 1 si vous pensez qu'il mérite son carton rouge. Tapez 2 si vous pensez que l'arbitre a voulu faire le buzz. Et puis, je me suis dit que ça serait sûrement la prochaine étape. Et puis, j'ai hésité à faire ce coup de gueule. Et puis, je me suis dit que tout bon supporter qui se respecte et qui a connu le vestiaire, son importance et son côté sacré, sera de toute façon d'accord avec moi. Et puis, the show must go on. Et puis, qu'est-ce qu'on peut y faire, ma petite dame ? Et puis, on s'étonne que ça puisse créer un buzz malsain. Et puis, c'est pas grave si on clique, si on passe à autre chose, si le voyeurisme perdure et s'agrandit, et qu'on s'étonne que tout part en sucette. Et j'ai pas dit en couille, hein. Que c'est le monde moderne et qu'on n'y peut rien. Mais oui, on est spectateur, donc on n'y peut rien assis sur nos canapés. Et puis, je me suis dit qu'il fallait quand même l'ouvrir, même si j'allais entendre les fameux « Oh, mais ta gueule, poulain, est-ce qu'ils sont payés ?» Ils sont payés de toute façon pour ça. Et puis, c'est quand même les droits télé qui les raquent. Et puis, je me suis dit que de toute façon, c'est devenu de la branlette philosophique que de parler du respect, de l'intimité, des valeurs et de ce lieu sacré. Et puis, ben, j'ai voulu garder le cap et mes convictions, quitte à passer pour un vieux con. Et puis, qu'est-ce que le monde de demain nous réserve ? Et puis, de toute façon, on n'y peut rien. On est spectateur, alors zappons et rendez-vous au prochain buzz.
Voilà un message exempt de toute ambiguïté. Allez, un petit coup de cœur pour finir après ce... C'est pire qu'un coup de gueule, d'ailleurs, entre nous. Un coup de cœur, Raph, en direction de Pierre-Henri Broncan, évincé de son poste de manager du Castres Olympique. On avait eu la chance, hein, Raph, de le recevoir dans Poulain Rafut il y a quelques temps. Maintenant, tu avais découvert un homme passionné, passionnant, capable de te parler de joueurs de Mazamet de 1984, saison 84-85, capable de te donner des stats incroyables sur n'importe quel joueur de top 14. Vraiment quelqu'un qui vivait ce sport avec une passion dévorante. D'ailleurs, il avait évoqué, hein, lors de cet entretien, qu'il avait la chance d'avoir une épouse très compréhensive. Bref, un profil atypique, finalement, dans ce monde des managers. Et du coup, tu voulais lui rendre un petit hommage alors qu'il vient de se faire, bah, on va le dire clairement, lourder par le Castres Olympique.
Oui, mais force est de constater que c'est à la mode. Et je ne vais sûrement pas ni critiquer le Castres Olympique comme on ne s'est pas permis de critiquer l'UBB au moment de l'éviction de Christophe Furios. On ne sait pas ce qui se passe dans le secret des vestiaires, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, Castres n'est sûrement pas à la place espérée justement par les dirigeants du club. Donc Pierre-Henri, comme d'autres ont déjà sauté, ouais, c'est plus, comme tu dis, un coup de cœur, quelque chose de positif. Déjà, de ne pas l'enterrer trop vite, parce qu'à mon avis, il va rebondir et il peut faire encore beaucoup de bien dans le rugby français et à très très haut niveau, je le pense sincèrement, parce qu'on avait passé un super moment. Donc, c'est plus sur l'homme qui te rappelle, tu les as cités, tous ces petits noms de villages qui puent le rugby, le village, voilà, le rugby clocher. Pierre-Henri, c'est aussi son papa aussi derrière, c'est quand même une lignée d'entraîneurs qui ont marqué le rugby français et qui marquent le rugby français. C'est un mec qui pue l'humain, c'est un mec qui est près de ses joueurs, qui gueule sur le bord du terrain. C'est quelqu'un de passionné, de passionnant, qui a été se former d'ailleurs en Angleterre, souvenez-vous, il y a quelques années, qui était parti en Angleterre pour se former aussi, pour aller découvrir d'autres cultures. Et ça fait chier parce que c'est des bons mecs qui ne doivent pas disparaître. On a besoin de ce côté terroir, village. Et pour moi, il représente tout à fait ce genre de personnalité qui fait du bien au rugby français et pas que dans les petits villages et pas que pour le rugby amateur. On a besoin de personnalités comme ça dans le monde professionnel parce que ça détonne, parce que comme, et je trouve que cette émission était top, et encore merci Arnaud, hein, Mais comme Wesley, il faut de l'authentique, il faut du vrai, ne pas perdre ça. C'est peut-être à l'image des coups de gueule que j'ai envoyés. On est vite jugé par les réseaux sociaux, comme l'expliquait Wesley. Mais voilà, finissons sur une note positive. Parlons vrai, parlons France, c'est ce que le rugby nous demande. Pierre-Henri Broncan, voilà, on t'aime et reviens très vite sur le terrain, tu vas nous manquer.
Sois-en sûr, Raph, Pierre-Henri Broncan ne restera pas longtemps sans club, j'en suis convaincu, et beaucoup de gens dans le milieu du rugby connaissent sa compétence. Bon, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, Raph. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Toujours avec la banane, Raph, ou pas?
Ah ben écoute, c'était franchement, regarde l'émission, je suis en Espagne, franchement, la vie est belle, c'est cool. Sébastien Petit vient nous enregistrer cette émission, on forme une belle équipe, donc je suis ravi, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon match de top 14 ce week-end, je serai pour Stade Français Montpellier, je remonte sur Paris. Et voilà, donc merci encore à toi Arnaud d'avoir animé cette émission et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.